France Inter.
France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière.
Elle s'appelait Sophia Corradi, son nom ne vous dit sans doute rien et pourtant vous êtes 2 millions à lui devoir un bout de votre vie, la plupart du temps une parenthèse enchantée et pour tous un horizon. Surnommée Mama Erasmus, elle s'est éteinte cette semaine, elle avait 91 ans, c'est elle qui a créé le programme d'échange européen parce qu'elle avait eu le privilège d'étudier aux États-Unis. Comme le moine néerlandais Erasme avait traversé l'Europe au 15e siècle. Alors on a eu envie de rendre hommage à Erasmus à travers vos témoignages ce soir. Depuis 1987, 16 millions d'Européens en ont bénéficié. Aujourd'hui, le programme se décline aussi dans d'autres pays de l'Union, comme la Turquie ou encore la Norvège. Et c'est devenu une marque, une auberge espagnole XXL. Aujourd'hui, les étudiants qui partent en Erasmus représentent moins de la moitié de l'effectif. Il y a aussi beaucoup de lycéens pro en apprentissage ou encore de professeurs en formation, sans compter les scolaires. Alors, ce séjour a-t-il changé votre vie? Qui avez-vous partagé? C'est aussi beaucoup plus efficace que les sites de rencontres. Pour quelle ouverture d'esprit? Et comme disait Romain Duris à la fin du film de Cédric Lapiche, je suis français, espagnol, anglais, danois, je suis pas un mais plusieurs, je suis comme l'Europe, je suis tout ça, je suis un vrai bordel.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Bonsoir Lionel.
Oui, bonsoir.
Et nous vous écoutons.
Merci de prendre mon témoignage. Donc, j'ai passé un an en Erasmus à l'étranger dans le cadre d'un programme double diplômant. Et c'est une expérience absolument incroyable qui a complètement façonné l'image que j'ai du monde aujourd'hui sur tout un tas de domaines. Les barrières sont un petit peu tombées. Un horizon s'est ouvert à moi.
Vous étiez dans quel pays, Lionel ?
Alors, j'étais en Finlande. J'étais en Finlande pendant un an et c'était un pays qui était extrêmement international, dans une université internationale avec des grosses communautés d'étudiants européens mais aussi internationaux, enfin d'autres pays du monde, je me souviens de Malais, d'Américains, de Sud-Américains, etc. Et j'ai eu l'impression de faire partie d'une communauté beaucoup plus large en fait que celle à laquelle j'appartenais jusqu'à présent, hein, qui était ma famille, mon village, voilà. Et il y a une expression que j'avais gardée en tête là, depuis toutes ces années, c'était « citoyen du monde ». J'ai vraiment eu l'impression de devenir à ce moment-là un citoyen du monde, un horizon beaucoup plus large, une solidarité aussi dans cette communauté de citoyens. J'avais été moi-même étranger, du coup, ce que je n'avais jamais été auparavant. J'étais étranger dans un pays qui n'était pas le mien. Et ça m'a donné aussi un regard différent sur l'autre, sur l'étranger. Voilà, et puis à titre personnel aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment l'entrée dans l'âge adulte. C'était au début des années 2000, hein, 2001-2002, pas de téléphone portable, internet très 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 moyen. Et du coup, la famille...
Oui, vraiment coupé de la famille, en fait. Hein.
Voilà, on était coupé de la famille, c'était on coupait le cordon, et on apprenait à se connaître soi-même et à se confronter aux autres dans leur culture. Et voilà, alors ce qui est amusant pour anecdote, c'est que je suis rentré de mon année d'Erasmus au moment où le film de Cédric Lapiche sortait. Et je suis allé le voir complètement par hasard et en fait c'était le film de mon année. Alors là, le film c'était en Espagne et moi j'étais en Finlande, donc c'est pas tout à fait pareil.
Mais c'est vraiment ce que vous aviez vécu à ce moment-là ?
Ouais. C'est ce qui m'a frappé. J'ai vécu la même chose que dans le film. Alors, en termes d'ambiance et d'expérience, c'est absolument incroyable. Mon épouse aussi a été un an Erasmus un peu plus tard que moi. Et on est retourné l'année dernière pour les vacances dans la ville dans laquelle était Erasmus, c'est à Vienne en Autriche. Et on est retourné avec nos trois enfants là où elle avait habité, dans la cité étudiante où elle avait habité. On leur a raconté tout ce qui s'était passé. Du coup, c'est quelque chose on encourage nos enfants à le faire et puis j'encourage tout le monde à faire ça.
Voilà. Et la boucle était bouclée. Merci pour votre témoignage qui pose plein de choses. On va pouvoir en parler avec vous. Bonsoir Nelly Fesseau.
Bonsoir Christelle Rebière.
Vous êtes directrice de l'agence Erasmus Plus France et vous êtes en duplex de chez nos confrères d'ici La Rochelle que l'on remercie chaudement au passage. Isabelle Maradon, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, documentariste, co-autrice avec Stéphane Dugast de Ils ont fait Erasmus, 30 portraits, 30 ans de découverte et d'échange. C'était publié chez La Martinière. Vous êtes en ligne avec nous de Strasbourg et en studio près de moi, Nicolas Ravenot, coordinateur national des stages Erasmus+, pour les apprentis d'Auteuil. Merci.
Oui, bonsoir.
Alors, je vais commencer par vous, Nelly Fesseau. C'est le témoignage assez parfait quand même, Lionel, qui commence par nous dire « Je suis devenu citoyen du monde ».
Tout à fait. Il a également précisé une chose très très importante sur laquelle nous avons beaucoup communiqué l'an passé, qui est qu'Erasmus permet aussi de se connaître soi-même. Mmh. Et ça, je crois que c'est aussi le gros plus d'Erasmus, c'est gagner en apprentissage, en autonomie, mieux se connaître, mieux savoir ce qu'on a envie de faire dans la vie, au travers des rencontres, au travers de l'apprentissage d'une langue étrangère, et puis bien sûr de tout ce qu'on peut apprendre quand on est dans un pays étranger.
Et je crois d'ailleurs que vous-même, Nelly Fesseau, vous avez fait partie de la toute première promotion d'Erasmus.
Je suis effectivement partie en 1989 pour Sciences Po Bordeaux au Kingston Polytechnique, qui est devenu Kingston University maintenant.
Oui.
Et pendant une année, donc nous étions quelques-uns. Je salue celles et ceux qui sont partis avec moi, et notamment Cécile de Bellex. Je ne sais pas si elle nous écoute, mais voilà. Et ça a été une très très forte et belle expérience pour nous tous.
Et qui vous a donné envie de vous engager, de passer de l'autre côté du miroir, si j'ose dire.
Oui, alors après un parcours dans le domaine culturel et dans l'éducation et la formation, mais effectivement, c'est en quelque sorte un retour aux sources.
Mmh. Isabelle Maradan, citoyen du monde, effectivement, c'est quelque chose que vous avez entendu à peu près tout le temps dans les témoignages que vous avez recueillis.
Oui, on entend effectivement que ça modifie le regard sur l'autre. C'est ce que disait Lionel tout à l'heure. Je crois que la modification du regard sur l'autre est sur l'étranger, a dit Lionel. Et le fait de se sentir soi-même étranger, pour la première fois peut-être de sa vie, selon les parcours des jeunes, c'est quelque chose d'effectivement fondamental, qui permet de se sentir appartenir à une communauté plus large, comme il le dit. On part de sa famille, de son environnement proche, et on va découvrir autre chose. Et ce qui est frappant dans tous les témoignages, c'est qu'en général, avant de partir, les gens nous disent « je suis heureux d'aller découvrir d'autres cultures, un autre pays, etc. » Et au retour, ils nous disent qu'ils se sont découverts aussi énormément eux-mêmes, ce qu'a aussi dit Lionel tout à l'heure.
Parce qu'on se retrouve aussi face à des difficultés nouvelles.
Tout à fait, on peut se retrouver face à des difficultés. Alors, c'est vrai que ce n'est pas ce qui ressort d'abord des témoignages pour celles et ceux qui le vivent bien. Hein. Ils mettent d'abord en avant tout ce que ça peut susciter comme progression, comme nouvelles compétences, ouverture d'esprit, etc. Mais c'est vrai que c'est l'occasion pour moi de dire aussi que ces difficultés-là, il ne faut pas non plus les nier. C'est-à-dire qu'il y a un élargissement du dispositif, enfin du programme, on va en parler, ça concerne beaucoup plus que les étudiants.
Absolument.
Mais c'est vrai que l'idée que la généralisation serait souhaitable, ou qu'en tout cas tout le monde devrait y aller, je vais prendre un raccourci, n'est pas forcément une bonne idée, parce qu'effectivement c'est quand même une expérience comme toute expérience qui consiste à changer de ville pour aller étudier, etc., peut générer de l'anxiété. Mmh. Et on sait bien qu'aujourd'hui il y a une vraie question sur le mal-être des jeunes, l'anxiété et des questions plus larges de santé mentale qui font que voilà, il serait dangereux, je crois, de dire que quel que soit son âge, sa personnalité et comment on va, tout simplement, on peut partir.
On va y venir dans un instant, mais je voudrais qu'on retourne au standard parce qu'on a beaucoup d'appels. Bonsoir Maëva.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous d'écouter mon témoignage. Alors, moi, je suis partie en Erasmus plus stage pendant 2 semaines en Croatie, en juin dernier. Et je suis partie dans un salon de thé en pâtisserie qui s'appelle Oche Kolach. Donc, très connue, une patronne très accueillante. Mm-hmm. Donc, je suis assez jeune, j'ai 20 ans, très stressée un peu à l'idée de partir comme ça, un peu dans un pays étranger, une langue étrangère que je connaissais personne. Donc j'étais quand même avec une amie à moi et franchement c'est quelque chose que je n'ai pas du tout regretté, au contraire ça m'a permis d'apprendre énormément de choses, des cultures différentes par rapport à nous différents en France.
Mmh.
Et franchement, c'était une très très belle expérience. Donc ouais, donc ça a duré 2 semaines et bah là actuellement, j'y réfléchis encore, mais je pense que ça va être un grand oui pour partir en Erasmus de 6 mois à 1 an.
Ah oui.
Donc ouais, ça a vraiment été.
Ah, ça donne envie de repartir en fait. On y prend goût, hein.
Oui. Vraiment, ça m'a. Enfin, c'est franchement, c'est incroyable et. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude tous les jours, donc franchement, si on a l'occasion de le faire, il vaut mieux tenter. Parce que moi, quand on m'a proposé, je savais pas trop, et je me suis dit, bon, de toute façon, on n'a rien à perdre, hein, on a tout à gagner. Mm-hmm. Donc, j'y suis partie. Enfin, franchement, c'était incroyable. Après,
et vous avez envie, et vous avez envie d'y retourner. Merci.
Oui, c'est ça.
Merci, Maëva. Nicolas Ravenot, vous êtes coordinateur national des stages, justement, Erasmus+, pour les apprentis d'Auteuil. Donc, vous gérez, si j'ose dire, des jeunes gens comme Maëva.
Tout à fait. C'est le témoignage de Maëva est tout à fait révélateur.
Représentatif,
Représentatif de ce qu'on propose. À apprentis d'Auteuil, en fait, on accompagne, nous, des jeunes en difficulté. Et donc, ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on propose des stages Erasmus pour ces jeunes qui sont les plus éloignés de la mobilité. On a des jeunes qui sont dans ces métiers-là, métiers de la boulangerie, la pâtisserie, du service, du paysage, métiers du bâtiment. Et les jeunes qui ne parlent pas très bien anglais et qui ont plein de barrières, en fait, parce qu'ils ne sont jamais sortis de France. Parfois même, ils ne sont jamais venus à Paris. Et donc, tous ces jeunes que Apprenti l'Auteuil accompagne, on leur permet justement de partir sur ces stages Erasmus. Alors nous, c'est entre 2 semaines et 1 mois. Mais 1 mois, c'est déjà énorme pour eux et ça fait beaucoup de beaucoup de différence dans leur parcours de vie et puis dans leur parcours professionnel. Comme disait Maëva, ils en reviennent enrichis avec de vraies expériences. Je rencontre régulièrement des jeunes encore qui me disent qu'ils en parlent régulièrement. Ça les a marqués. Ils sont sortis de leur zone de confort. Ils ont progressé dans l'autonomie, progressé dans la prise d'initiative. Ils parlent pas la langue, ils parlent pas anglais, ils parlent pas espagnol, mais ils arrivent à se débrouiller, comme ils disent. Donc c'est une vraie chance. Alors tout à l'heure on parlait avec Nelly d'auberge espagnole ou avec votre premier auditeur.
Oui.
En fait c'est pas que l'auberge espagnole, c'est pas que le monde des étudiants. C'est vrai que les lycées professionnels sont méconnus.
Ça il faut comprendre. Ça fait quand même un certain nombre d'années qu'il y a des jeunes venus de lycées pro qui font des stages à l'étranger via Erasmus.
C'est la partie la moins connue du programme malheureusement.
Absolument.
Et c'est vrai que Apprenti l'Auteuil, on envoie quasiment 250 jeunes par an en stage Erasmus dans différents métiers. Et c'est quand on communique auprès des familles, souvent ils méconnaissent en fait cette partie du programme parce que tout le monde pense que Erasmus, c'est l'université, c'est 6 mois et c'est quand on est étudiant. Et nous, on offre une vraie chance à ces jeunes qui sont en milieu professionnel, sur du CAP, sur du bac pro, qui arrive en disant on n'a aucune chance de partir en stage Erasmus parce qu'on ne parle pas la langue et au contraire c'est une vraie opportunité.
Nelly Fesseau, il faut qu'on en parle de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un effectif de 165 000 personnes, hein, je crois, qui ont bénéficié d'Erasmus Plus l'année dernière, dont un peu moins de la moitié qui sont des étudiants.
Alors en 2025, on est proche des 200 000, on est quasiment à 200 000 pour 2025. Alors évidemment, on est très très loin des 900 qui sont partis en 1987 au tout début du programme. Et effectivement, de 1987 à 2014, le programme ne s'adressait qu'aux étudiants. À côté de ça, il y avait d'autres types de programmes, notamment Leonardo da Vinci, qui était justement réservé aux lycéens professionnels et aux apprentis. Et puis il y avait aussi Comenius pour le scolaire et Grundtvig pour les adultes. Et tout ça était fondu sous le vocable Erasmus+, d'où le petit plus à côté d'Erasmus, pour ne former qu'un seul et même programme à partir de 2014. Et aujourd'hui, sur la formation professionnelle, l'enseignement et la formation professionnelle, nous finançons plus de 40 000, 42 000 exactement mobilité par an. Effectivement, c'est une très large diversité du programme avec les publics scolaires qui approchent des 70 000.
Voilà. Parlez-nous des scolaires, parce que ça, on ne le sait pas, en fait. Hein. On imagine volontiers les étudiants, un peu les apprentis, mais les scolaires, vraiment, vous les envoyez combien de temps à l'étranger et que vont-ils y faire?
Alors, c'est
un voyage scolaire, en fait, amélioré?
ce sont toujours évidemment les professeurs, les chefs d'établissement qui sont à l'origine du programme avec leur classe, bien sûr. Ça peut être donc des mobilités de groupe et ça peut être aussi des mobilités individuelles qui ont été renforcées depuis l'arrêté du 4 août 2022, puisque depuis cette date, les mobilités individuelles de 4 semaines et plus pour les lycéens sont prises en compte dans leur livret scolaire français, que ce soit en termes de notes ou en termes d'appréciation reçue dans le lycée partenaire. Mm-hmm. Donc voilà. Et puis, les professeurs sont très, très, très moteurs pour participer au programme.
Évidemment, ce sont eux qui vous sollicitent. Bah, justement, on a une directrice d'école en ligne. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Voilà, je suis ancienne directrice d'école puisque je suis à la retraite depuis 4 ans, mais j'ai eu l'énorme chance dans mon parcours d'enseignante d'emmener des enfants d'être coordinatrice d'un projet, mm-hmm, Comenius en 2009-2011 et 2011-2013, donc 4 années. Et nous avons eu la particularité d'emmener des enfants de 5 ans en Angleterre. Parce que je ne me voyais pas construire un projet uniquement pour les enseignants. Et le but était évidemment de partager cette expérience également avec nos élèves. Et c'était à l'époque...
Mais qu'est-ce que vous avez... Racontez-nous, Catherine, ce que vous avez fait avec des enfants qui étaient en grande section, en fait.
Exactement. Alors, nous avions deux projets. Le premier était sur les contes et le deuxième sur l'écriture. Et donc, nous avons travaillé pendant les 2 années sur des contes spécifiques. Et le but était donc de faire venir ces enfants avec tout le matériel pédagogique qui était énorme au niveau des arts plastiques, puisque c'est surtout dans ce domaine-là qu'on avait la possibilité d'échanger, puisque forcément les enfants ne maîtrisaient pas la même langue.
Mais oui, c'est ça.
Mais sur place, on avait prévu un tas d'activités avec des cryptogrammes et puis des jeux, enfin. Et ça s'est merveilleusement bien passé. Les enfants, des mots d'enfants qu'on a eu, c'était ah ça y est, j'ai des copains, je vais absolument retourner en Angleterre, mais il faut que j'apprenne l'anglais. Enfin, il y avait une motivation énorme. Et donc, nous avons passé 4 jours dans ces classes et les enfants n'avaient même pas envie de rentrer, à vrai dire. Quand ils sont rentrés, on a passé 4 jours merveilleux sans aucune larme et vraiment, bon, avec un travail de préparation énorme, évidemment, au départ, mais ça a été une satisfaction pour mon équipe et moi-même, dont on a des souvenirs merveilleux.
Oh bah, j'imagine. En fait, tout le monde a des souvenirs merveilleux, les petits et les grands comme vous qui se sont battus pour que ce soit possible. Merci. Absolument. Catherine. Isabelle Maradan, vous souhaitiez réagir ?
Oui, c'était pour dire que ça me remémore un témoignage d'un enseignant breton qui mène ce type de projet aussi avec des enfants, alors dès la maternelle aussi, dès la grande section, et pas forcément avec des mobilités, mais qui menait ça sur une plateforme qui s'appelle eTwinning, qui est une plateforme qui permet de monter des projets européens dans le cadre de projets Erasmus+, et de travailler avec d'autres enfants, d'autres écoles de différents pays sur des thématiques différentes. Ben là, comme Madame, c'était le conte. Il y en a qui travaillent sur l'environnement, sur le climat, etc. Et donc, ils vont partager, ils vont apprendre à connaître les autres pays et les autres élèves. Et ce dont il témoignait, parce qu'il a des années de recul, il a fait ça pendant vraiment, si je ne dis pas de bêtises, une vingtaine d'années, il a vu ces enfants-là devenir étudiants ou devenir apprentis ou continuer leur cursus et avoir vraiment des envies de mobilité et repartir dans le cadre d'autres projets. Donc, je crois que ça sème des petites graines.
Ça sème des grosses graines, je pense, Nelly Fesseau. C'est sûr, une expérience comme celle-là, même quand on est petit, ça sème une graine incroyable.
Alors, c'est ce qu'on constate, effectivement, Christelle, puisque, évidemment, celles et ceux qui l'ont fait, surtout petits, surtout puisque les formats maintenant sont très diverses, donc et adaptées à chaque profil, avec études, stages, hybrides aussi. Donc, on peut avoir des périodes d'échange post-mobilité ou pré-mobilité qui, justement, peuvent être préparées par les professeurs, comme ça a été dit. Et ce qu'on constate, c'est qu'un jeune qui aura fait une mobilité d'une semaine aura envie de repartir pour 15 jours, ou comme la jeune fille qu'on
comme
a...
Maëva, elle disait deux semaines et je vais partir pour 2 mois.
qui a eu envie de, qui a envie de repartir peut-être en Croatie ou peut-être ailleurs d'ailleurs. Donc c'est vraiment le goût aussi de l'ailleurs et de la découverte.
Et nous sommes en ligne avec un ex-Erasmus qu'on a eu envie de faire témoigner, que vous connaissez bien, vous, auditeurs de France Inter, c'est Alex Vizorek. Bonsoir.
Mais bonsoir, France Inter.
Ravi de vous retrouver, Alex. Donc vous, vous étiez parti avec Erasmus, 22 ans ?
Exactement. Oui, exactement. Et en fait, dans mon école de commerce belge qui est reliée à l'Université de Bruxelles, nous étions obligés de partir quelque part. Ouais. Tous les élèves devaient partir, et donc on rendait une liste, et en fonction de la qualité de votre travail à l'année, vous partiez dans votre premier choix ou dans votre sixième choix. Moi, j'avais bien mis au-dessus Madrid, Bologne, Rome, et je me suis retrouvé à Berlin pendant 6 mois, et j'ai adoré. C'est vraiment une expérience unique. Moi, j'avais jamais quitté le foyer familial, on habitait pas loin de l'université, donc j'avais jamais cuit un œuf, pour être tout à fait honnête avec vous. Et donc, j'ai appris ce côté-là de la vie, puis j'ai appris une langue, et puis j'ai des amis un peu dans le monde entier aujourd'hui.
Que vous avez gardé ?
On a encore un groupe WhatsApp. Oui, on a encore un groupe WhatsApp. Il n'y a pas si longtemps, on s'est envoyé des photos, parce qu'à l'époque, évidemment, je vous parle d'un temps où il n'y avait pas des photos sur les téléphones.
Il y avait des téléphones quand même déjà, rassurez-nous.
Eh bien écoutez, non, moi j'avais un café internet où on allait passer une heure sur internet, et puis le reste on était quand même un peu livré à nous-mêmes, mais c'était ça l'intérêt aussi de cet échange, et franchement j'en garde un souvenir merveilleux.
Mmh. Vous seriez prêt à... Est-ce que vous avez des enfants, je ne sais pas Alex, et est-ce que vous seriez prêt à les laisser partir comme ça avec Erasmus?
Alors, dès que j'en fais, je les envoie en Erasmus très loin pendant une quinzaine d'années, et comme ça je les récupère après. Mais oui, bien sûr, franchement, et j'incite tout le monde, si vous avez des doutes, parlez-en autour de vous, parce que je n'ai entendu que des gens qui ont eu des bonnes expériences. J'avais un pote qui est parti à Varsovie, c'est quand même une langue difficile.
Oui.
Il a adoré la Pologne dans le froid pendant 6 mois, quand il en parle, c'est sans doute une des meilleures phases de sa vie. Voilà.
Isabelle Maradan souhaitait vous parler, Alex.
Oui,
mais Alex, vous êtes dans le livre, ils ont fait Erasmus, donc j'invite les auditeurs et auditrices à regarder le livre pour voir les photos de vous à l'époque, ça peut être rigolo, notamment en train de faire cuire un œuf. Puisque vous avez dit, j'ai tout appris, cuire un œuf, faire une lessive, etc. Donc vous avez coupé le cordon.
Oui, 100 km à Volvo. Oui, mes parents sont venus pour m'installer très gentiment, et après ils sont partis et j'ai découvert des problèmes du quotidien que je n'avais jamais découvert. Mmh. Alors ça fait un peu idiot comme ça, mais en fait plein de gens, et qu'importe le milieu social, parfois c'est votre mère, c'est votre père qui fait des trucs, vous savez pas quoi faire. Et quand on est livré à soi, on trouve des solutions. Et en plus, on parle ici du plaisir, mais il y a un vrai cursus intéressant. Moi j'ai suivi des cours à moitié en allemand, à moitié en anglais. Et j'ai aussi appris des choses, parce que c'est pas que une expérience de vie humaine.
Mmh. Merci pour votre témoignage, Alex. Je sais que vous êtes à l'autre bout du monde, à San Francisco. Oui. C'est gentil. je sais que vous êtes en spectacle bientôt, c'est ça ?
Oui, je suis au Café de la Danse en janvier, et là je suis à San Francisco demain, si vous êtes de passage.
Oui, écoutez, on va essayer, mais il y a de la route quand même. Hein. Merci. Merci Alex, à bientôt. Je voulais vous lire aussi ce message qu'on a reçu sur WhatsApp de Juliette, Théodore, Cassandre, Lou et Meredith. Nous sommes un groupe de 5 amis de Bretagne, nous avons eu la chance de tous partir un mois en mobilité alors que nous sommes au lycée. Ça nous a apporté plein de choses et d'expériences, ça a vraiment forgé notre groupe. Notre question est la suivante, est-ce que ce programme a de l'avenir dans la disposition européenne actuelle ? C'est une question pour vous, Nelly Fesseau.
Il en a, Christelle, puisque la présidente de la Commission a annoncé les chiffres pour la prochaine programmation, donc 2028-2034, et une hausse du programme Erasmus de plus 57% exactement, et sur le même périmètre 50%, un peu plus de 50%. Donc, puisque le programme va intégrer également le Corps européen de solidarité, donc voilà.
Qu'est-ce que c'est le Corps européen de solidarité ?
Alors, Alors, c'est un volontariat qui, comme un volontariat qu'on peut réaliser en France ou un service civique, mais qui se déroule en Europe. Donc, et c'est géré par l'agence Erasmus Plus Jeunesse et Sport, qui est dirigée par Mathieu Romégus, que je salue, et donc qui gère cet aspect-là du programme.
Et il y a combien de pays aujourd'hui qui participent au programme Erasmus Plus ? Parce qu'on est bien au-delà des 27 pays de l'Union européenne.
On est exactement 33 pays, oui. Donc il y a les 27 pays membres, il y a 6 pays associés qui ont rejoint le programme, et donc 3 pour des raisons économiques et 3 qui sont candidats à l'entrée dans l'Union européenne.
Mmh. Nicolas Ravenot, c'est vraiment un plus, cette ouverture vers d'autres pays pour les jeunes apprentis d'Auteuil avec qui vous travaillez.
J'ai un exemple sur ce que j'ai entendu. Je rebondissais sur ce que disait Alex sur l'Erasmus, c'est aussi une découverte culturelle. Moi, j'ai des témoignages de jeunes qui sont partis en Finlande, par exemple, et qui aujourd'hui, au-delà de l'expérience professionnelle, racontent qu'ils ont marché sur la Baltique, qu'ils ont été voir le village du Père Noël. Vous voyez, pour eux, c'est une vraie chance pour des jeunes qui ne sont jamais sortis en fait de France. Et puis dans ce que vous disiez, en fait, dans tout ce qu'on entendait, apprenti d'Auteuil, on en est convaincu. Nous, on construit des ponts et des passerelles. On essaye de franchir des murs qui se dressent en Europe. Et la barrière de la langue en est une, mais il y a aussi des malheureusement de vrais murs. Et donc, le programme Erasmus est une vraie opportunité, une vraie chance pour construire la paix, faire rencontrer les gens. Je voulais aussi rebondir sur les expériences. On parlait tout à l'heure d'Alex qui voulait envoyer ses enfants, ou en tout cas de gens qui veulent repartir.
Le jour où il en aura.
On a aussi des jeunes, nous, qui sont dans nos établissements, qui ont vécu Erasmus il y a maintenant 10-15 ans, et qui aujourd'hui, grâce à Apprenti l'Auteuil, en fait, ont voulu partir à l'étranger. Et donc, j'ai l'exemple de deux jeunes qui sont aujourd'hui à Londres, qui travaillent dans les boulangeries Paul, et qui étaient des jeunes en bac pro, qui auraient pu travailler en France dans une boulangerie, et qui aujourd'hui vivent depuis 10 ans à Londres. Ils sont responsables de la production dans les boulangeries Paul. Ils sont ensemble, ils ont eu un bébé. Alors, c'est pas un bébé Erasmus, mais presque. Et ils ont vécu cette expérience Erasmus qui leur a donné cette opportunité de partir à l'étranger, en fait.
Bonsoir Gérard.
Oui, bonsoir. Alors moi, je voudrais faire un peu la contradiction.
Mais je vous en prie.
J'ai deux critiques. Alors une critique, c'est que je suis un peu désolé que personne n'ait rappelé qu'une des principales, un principaux apports de la dame italienne là, qui est décédée et qui est un peu à l'origine d'Erasmus, c'est d'avoir obtenu l'équivalence des diplômes.
Oui, c'est vrai.
Et ça, c'est extrêmement précieux et je regrette que personne n'en ait parlé. La deuxième critique, c'est que, j'ai peut-être tort, mais moi j'en étais resté à une époque où Erasmus finançait des séjours d'un an. Et je pense que c'est trop long parce que ça coûte très cher et ça coûte très cher aux financeurs, l'État, mettons, et également ça coûte cher aux familles parce que souvent il y a un reste à charge important, ce qui fait que Erasmus, à mon avis, j'ai peut-être tort maintenant, mais c'était essentiellement décidé aux classes supérieures et pas tellement aux ouvriers, aux employés, etc., ou aux gens qui faisaient des formations comme ça, alors que avoir pendant quelques mois un bain à l'étranger, je suis convaincu que c'est assez important et utile. Je suis pas contre Erasmus, mais je suis contre l'organisation telle qu'elle est. Personnellement, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger, j'ai beaucoup fait des petits séjours, et je pense qu'un séjour de 3 mois, c'est déjà très bien.
On va laisser Nelly Fesseau vous répondre. Alors d'abord, est-ce qu'un an c'est trop long, Nelly Fesseau?
Ah non, c'est pas trop long, c'est très très bien. Et puis on peut choisir effectivement de partir moins longtemps. Donc et alors par rapport à ce que disait Alex, on peut également faire un Erasmus dans le reste du monde, donc pas uniquement dans les 33 pays qui sont membres du programme. Et donc si on vous dit qu'on a fait un Erasmus au Japon, par exemple, eh bien c'est tout à fait possible et on peut en faire un aux États-Unis.
C'est génial, ça.
Voilà, parce que à peu près 20% des mobilités peuvent se dérouler, en tout cas à l'intérieur. 80% sur l'Europe et les pays membres du programme.
Bon, deuxième critique de Gérard, ça coûte trop cher aux familles.
Ça coûte trop cher. Alors Gérard, je vous rassure, ça coûte moins cher maintenant, puisque d'abord on a un petit top-up inclusion, alors petit qui est quand même assez conséquent, puisque c'est un supplément de 250 euros pour mensuel pour les étudiants, donc qui s'ajoute à une bourse qui peut être en moyenne environ de 500 euros par mois. d'une part, et puis d'autre part, la bourse Erasmus est cumulable avec toutes les autres bourses, y compris l'aide à la mobilité internationale, y compris les bourses régionales et des collectivités territoriales de manière générale, donc qui se sont aussi beaucoup développées. Mmh. Donc voilà. Alors c'est, on a une dimension inclusion qui est aujourd'hui très forte, et environ 40% de nos étudiants sont des étudiants boursiers. Donc on voit que le programme n'est plus réservé que un petit groupe de personnes favorisées.
Oui, ça a beaucoup changé quand même.
Ça a évolué, tout à fait, ça a évolué, puisque c'est aussi depuis 2014 et cette consolidation, cet élargissement du programme, que cette dimension inclusive a trouvé également toute sa place.
Et j'imagine que peut-être cette dimension, que... pardon, je voulais juste en parler avec Nicolas Ravenot, qui représente les apprentis d'Auteuil. J'imagine que l'inclusion chez vous, c'est essentiel.
On est très content en tout cas que l'agence Erasmus nous fasse confiance. Ils nous ont remis d'ailleurs le label Excellence l'année dernière, on est les seuls en France. Et en fait, on a des jeunes, nous, qui sont vraiment éloignés de toutes les mobilités, dont les familles ne pourraient pas payer en fait une mobilité de 2 semaines à 4 semaines, parce que nous, c'est 4 semaines par rapport à ce que disait votre auditeur. Mmh. Ils ne partent pas très loin. Et en fait, on arrive, nous, à financer quasiment ces mobilités. Alors, on a des mécènes qui nous aident et qui nous soutiennent. On arrive à trouver quelques fonds. On a une petite participation symbolique des familles, mais il ne faut pas que l'argent soit un obstacle à
Alors,
ces départs.
Alors, j'ai une petite question sur WhatsApp d'Alexandra, c'est sans doute pour vous Nelly Fesseau, qui dit « Lorsqu'on reçoit un étudiant Erasmus pour plus de 2 mois, doit-on leur verser une gratification comme il est obligatoire de le faire pour un stage de plus de 2 mois en France ?»
Alors ça, c'est dans le cadre des stages, enfin des apprentissages, et donc ça dépend complètement des modalités qui sont décidées entre les maîtres d'apprentissage. Donc la plupart du temps, oui, il y a une gratification.
D'accord. Bonsoir, mais... je voulais répondre sur l'équivalence.
Alors sur l'équivalence, il a entièrement raison. Vrai. Effectivement, Sophia Corradi est plutôt à l'origine de la reconnaissance des diplômes et elle-même avait bénéficié d'une bourse Fulbright pour aller aux États-Unis et je voulais rappeler que c'est Domenico Leonarduzzi qui a créé le programme pour la Commission européenne en 1987 et que Sophia Corradi était sur un autre axe, elle était plutôt sur la reconnaissance des diplômes à travers le mémorandum Corradi de 1969. C'est une précision importante et je remercie Gérard.
Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu sur France Inter, on vous écoute.
Alors, mon fils est parti en Roumanie, en Erasmus, il était en bac pro à l'époque, en MFR, et il est parti sur une exploitation agricole en Roumanie. Et ce que disait au Craig, lui, il était tombé, c'était un gros colco, c'était une grosse ferme en Roumanie.
Oui.
Mais il était en agro-équipement, et ils allaient là-bas pour voir du matériel, pour voir des machines.
Et il a aimé cette expérience ?
Ah oui, il a bien aimé ça. Comment dire, le seul truc, c'est qu'ils étaient sur un colco, donc ils avaient un appart sur cette ferme qui était isolé. Ils n'ont pas été beaucoup en ville. Ils ne sont pas vraiment mélangés à la population. Ouais. Alors qu'ils avaient un collègue qui était une exploitation...
Je suis désolé Michel, pardon, je suis obligée de vous interrompre. Pardon, je m'excuse, mais la liaison était vraiment trop trop mauvaise, pardon. Isabelle Maradan, vous avez vu aussi, à travers les témoignages que vous avez recueillis, ce genre de profil comme le fils de Michel, c'est-à-dire qu'il est parti sur quelqu'un qui est parti sur une exploitation agricole.
Alors oui, ça me rappelle une jeune femme qui était partie, alors c'était plutôt sur une entreprise d'exploitation hippique et qui elle était partie aussi avec une MFR, puisque les maisons familiales rurales on voit aussi est partie beaucoup et favorise la mobilité. Après c'était pas cette dimension là et elle est même restée travailler là-bas, donc il y a aussi ce type de choses. Mais on voit effectivement de plus en plus de jeunes qui sont éloignés, on va dire, de la mobilité, c'est-à-dire qu'ils n'y ont même pas pensé avant, qui pensaient pour certains et qui nous disent en entretien qu'ils pensaient que c'était pour les étudiants et puis c'est tout. Donc aussi bien des apprentis que pour revenir sur ce que disait.
Oui, c'est un peu le message qu'on a envie de faire passer ce soir. C'est attention, c'est pas juste pour les étudiants, hein. C'est pour tout le monde en fait.
Et non, loin de là. Ouais. Et le Corps européen de solidarité, qui était auparavant, c'était le service volontaire européen. Moi, je me souviens d'un jeune qui s'appelait Mathieu, qui est parti en Biélorussie du Pays Basque à 20 ans. Et lui, il m'a dit, c'est l'Erasmus de la deuxième chance, parce que je n'ai pas fait d'études et il n'y a pas de condition de diplôme pour partir en Corps européen de solidarité. Mm-hmm. Donc lui disait, voilà, c'est ma chance de partir sans diplôme, faire un volontariat à l'étranger, et c'est l'Erasmus de la deuxième chance. Et ils sont nombreux à dire ça, par rapport à ça. Et puis, il y a aussi les demandeurs d'emploi. On n'en a pas parlé.
Ah bah,
mais on peut
oui.
partir en stage
oui.
ouais, de quelques mois on est demandeur d'emploi. Et je me souviens de Clément, que j'avais interviewé pour un article pour Le Monde, qui est parti à 22 ans mm-hmm. et qui est allé en Lituanie. Il venait mm-hmm. d'une petite ville de 3000 habitants près de Poitiers. Et voilà, logement, transport a été pris en charge. Il a fait un stage de 4 mois chez un imprimeur. Et il me disait, voilà, j'y allais pour l'anglais. Et puis en fait, ben, j'ai gagné en confiance en moi à un moment où je me sentais plus capable. Et il dit, j'ai trouvé à nouveau l'envie de faire des choses. Et je suis rentrée, j'avais plus peur d'entreprendre, enfin au sens large, hein, de me lancer dans la vie. Quoi. Mm-hmm. Donc, ce genre de témoignages sont quand même essentiels.
Hein. Ça, c'est extrêmement intéressant. Nelly Fesseau, moi, je ne savais pas qu'on pouvait partir en tant que demandeur d'emploi.
Alors exactement, on peut partir en tant que demandeur d'emploi et on travaille beaucoup, beaucoup avec France Travail sur ce sujet-là. C'est aussi très intéressant pour les jeunes qui sont en recherche d'emploi et qui sont à France Travail et qui se disent « mais qu'est-ce que je vais faire en fait ?»
Et, bah oui.
et donc ça leur donne aussi l'opportunité de tester autre chose. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir fait des études qui leur conviennent pas bien ou alors ils ont peut-être envie de se réorienter. Et là, ça permet de s'ouvrir à d'autres métiers, d'autres voies professionnelles. Et puis pour revenir sur ce qui a été dit juste avant, effectivement c'est un axe très important. Les lycées agricoles, 70% des établissements agricoles sont dans le programme Erasmus et nous travaillons avec le ministère sur l'organisation des rencontres européennes sur l'agriculture face aux défis climatiques parce que c'est un axe essentiel et bien sûr pour les jeunes qui sont en lycée agricole, savoir comment on traite la vigne dans le sud de l'Europe, comment est-ce qu'on exploite sur les céréales, comment est-ce qu'on partage.
Oui, on apprend beaucoup de choses au niveau technique, hein, quel que soit son domaine de compétence en fait.
C'est absolument fondamental et cette ouverture, les jeunes la demandent beaucoup, beaucoup aussi dans les lycées agricoles.
Voilà, ben j'aimerais finir juste sur le témoignage de Laurent qui a laissé ce petit message sur l'application France Inter. Mon épouse et moi, nous sommes rencontrés grâce à Erasmus. Plus de 25 ans après, nos enfants sont de vrais citoyens du monde et de fervents européens. Ben voilà, je crois que c'est un petit peu le message de toute cette émission, Nelly Fesseau.
Tout à fait. Et puis, on a, je crois, plus d'un million de bébés Erasmus. Donc, voilà. Je ne les connais pas tous.
Eh bien, merci. Merci infiniment pour vos témoignages. Merci à vous tous qui avez participé à cette émission. Après 20h, les petits bateaux avec Anatole, 8 ans et demi.
Je voudrais savoir pourquoi, sur certaines pièces étrangères, il y a un trou au milieu. Merci.
Bah, je crois qu'Anatole, t'es mûr pour Erasmus, déjà.